Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto, le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille 106,6. Tout de suite, le sommaire de cette émission, d'abord plein feu sur le championnat du monde de Superbike avec notre ami Gilles Fagnin. Gilles, bonjour, on est content de te retrouver dans les studios.
Oui,
parce que d'habitude on t'a au téléphone là-bas, ouais. Toujours sur...
Ouais, j'ai rejoint la région.
En direct dans des paddocks,
Alors,
que ce soit Manicourt ou au Mans.
Effectivement, la finale du Superbike à Portimao, évidemment le titre du champion du monde, est joué, mais derrière ça se bagarre pas mal et on verra tout à l'heure un peu comment ce qui peut encore être joué.
Tu nous parleras un petit peu d'endurance.
Alors après, on aura deux séquences. Premièrement, une séquence avec un pilote du mototour qui va venir nous raconter son mototour à lui, qui est à mes côtés, Thierry Houzé.
On peut dire que c'est de l'endurance aussi, le mototour.
Oui, ça c'est clair. C'est 8 jours de course.
C'est 8 jours de course. C'est pas, on tourne pas autour d'un circuit pendant 24 heures, mais c'est aussi très, très, très difficile.
C'est une autre forme d'endurance, ouais, tout à fait.
Et en deuxième partie d'émission, on aura on parlera un petit peu de championnat du monde d'endurance qui, par contre, lui, n'est pas du tout joué puisque on a une inconnue quant au titre puisque le CERT, Suzuki Endurance Racing Team et puis l'ABM, peut-être une BM, machine européenne pour la première fois dans un championnat du monde d'endurance peut-être sera titré le 12 novembre prochain au Qatar.
À cause de cette mauvaise performance aux 24 heures du Mans,
Gilles, également avec Christophe Guillot.
Il y a eu des gros problèmes.
Avec Christophe Guillot qui sera au téléphone, notre invité au téléphone.
Voilà, et puis nous sommes aussi en compagnie de notre ami Luc qui... bonjour Luc.
Bonjour à tous.
On va avoir Cédric Montéard hein, qui nous parlera de la sortie de son livre Le manuel du motard à 11h30.
Tout à fait. C'est un journaliste moto qui a fait énormément de choses et vous verrez, c'est quelqu'un aussi de très intéressant.
Très bien. Eh bien, la programmation est signée. La programmation musicale est signée Laurent Rodier. Le magazine de la moto, c'est le dimanche de 11h à midi. Aujourd'hui, avec notre invité Thierry Houzé, qui a terminé 104e du Moto Tour, qui s'est terminé dimanche dernier, samedi dernier, on va dire, en haut du Mont Faron.
Oui, tout à fait.
Oui, je vais un petit peu intervenir parce que.
Gilles.
Ouais, voilà, on a voulu inviter Thierry parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est de parler du Moto Tour, de le vivre un peu de l'intérieur. Et on a demandé à Thierry de venir nous parler de son Moto Tour à lui. Alors, évidemment, on a un petit peu préparé ensemble l'émission. Et puis, on voulait aussi parler un petit peu ton parcours parce que t'es pas du tout habitué à ce genre de rallye. Qu'est-ce que t'avais fait avant en fait?
Non, c'est clair que j'ai tâté du rallye, mais un peu plus de rallye africain et en quad. Donc c'est sûr que ça n'a pas grand-chose à voir à la base. La seule grande école du rallye africain dans le sable, c'est un peu la durée qui est aussi sur des périodes de 8 jours où il faut avoir le mental et puis et l'endurance pour aller jusqu'au bout, c'est clair. Après en effet pour la route, je suis un motard tous les jours, j'ai tâté un petit peu de piste histoire de préparer le mototour, mais c'est pas ma grande spécialité. Après dans le mototour, il y a aussi une grosse notion de navigation pour suivre le roadbook, hein, donc ça c'est pas rien.
Et ça tu t'y retrouves par rapport au rallye africain évidemment.
Non, tout à fait, c'est ce que je connaissais pas non plus le mototour avant de m'y intéresser de plus près, et c'est vraiment le mélange de ce que j'ai fait, quoi. C'est des rallyes de 8 jours, de l'orientation, un peu de pilotage, je me disais que ce truc là était peut-être taillé pour moi, quoi.
Alors du coup, t'as découvert ça et t'es parti Val de Reuil pour les qualifs. Comment ça se passe en réalité quand on a jamais rien fait comme ça? Ça doit être un peu angoissant. Hein.
Ouais, la grosse angoisse de la partie vérification, c'est justement d'être dans la conformité, quoi, parce qu'on vous, il y a un joli règlement à télécharger, mais il y a quand même quelques règles essentielles à suivre et toujours quelques points d'interrogation sur la préparation de la machine, ce qu'on a le droit d'y faire, ce qu'on n'a pas le droit d'y faire, ce qui est toléré, ce qui passe, ce qui passe pas.
Alors qu'est-ce qu'on a le droit d'y faire? Par exemple, l'échappement, on a le droit de modifier?
Ouais, tout à fait. En fait, au niveau technique, on touche pas à grand chose, hein, pour être très clair. Aujourd'hui, l'échappement, à partir du moment où il respecte les normes de bruit et où aujourd'hui il fait pas passer la machine au-dessus de la limite des 106 chevaux, on peut y aller. Après, le reste de la préparation de la machine, c'est plutôt de la préparation, on va dire, partie cycle et prévenir les petites chutes qu'il peut y avoir, etc., pour être le moins pénalisé possible si ça arrive, quoi.
D'accord, et donc tu vas au Val de Reuil, tu te qualifies, et puis à partir de là.
Le Val de Reuil, c'est même pas. L'arrivée au Val de Reuil aujourd'hui, c'est une vérification technique comme un bon touquet, une vérification administrative. Et en fait, le dimanche, nous on est arrivé le samedi pour faire les vérifs, et le dimanche, il y avait une petite épreuve qui permet un peu aux gens de commencer, comme pour moi qui était. Pour qui c'était la première expérience au genre de truc, de se réacclimater avec les contrôles horaires, avec les méthodes de pointage qui sont maintenant sur des tapis électroniques. Moi, quand j'avais fait du désert, c'était pas ça.
Tapis électronique, c'est-à-dire on passe sur un tapis.
Ouais, tout à fait. En fait, on a un petit transpondeur et c'est le fait de passer sur le tapis qui déclenche le chrono à l'arrivée comme au départ d'ailleurs. Donc tout ça, toutes ces petites astuces techniques, on va dire, de s'habituer aussi à la navigation grâce à on va être obligé de citer la marque parce qu'il y a que. Mais aujourd'hui, il y a un roadbook électronique qui s'appelle un Trippy, qui est en fait un super outil, ça c'est clair. Ça va vraiment très très bien, mais il faut le temps de s'habituer à tout ça. Et une petite spéciale histoire de se mettre en jambes. Et c'est cette spéciale qui a déterminé l'ordre de classement du départ du lendemain.
Violation, and I almost don't want to see your face no more. Well, I bet you he'll put you in that stone mansion. Turn the key, throw it away, and lock the door.
De retour avec Thierry Houzet, notre invité aujourd'hui, pour nous parler de son mototour. Alors, moi j'étais étonné que dans la petite préparation qu'on a fait avant l'émission, tu m'as dit que le mototour ça se déroulait sur route ouverte. Et c'est quand même incroyable.
Ouais, en fait, c'est très proche du rallye voiture, je crois. Aujourd'hui, on a des liaisons avec une moyenne horaire à respecter qui nous est donnée le matin en fonction de la reconnaissance qui a été faite par l'organisation, en fait. Et donc, en général, ça se balade entre 50 et 60 km/h sur route ouverte. Et en fait, ces liaisons nous amènent à des spéciales où qui elles sont sur route fermée, mais qui sont de l'ordre de 4-5 km. Donc on est vraiment dans le contexte du rallye auto. Après, en effet, toute la difficulté, je dirais, de la spéciale, bah, c'est une épreuve chronométrée, sécurisée, avec des commissaires partout. Donc voilà, quoi. Pas de grand risque aujourd'hui, on est dans de bonnes conditions. Toute la difficulté aujourd'hui de la durée, de la concentration nécessaire, c'est en effet la route ouverte avec les autres usagers, tout en maintenant cette fameuse moyenne.
Alors, est-ce que c'est possible de maintenir cette moyenne? C'est combien la moyenne suivant les étapes?
En général, c'est entre 50 et 60 km/h, ce qui sur le papier paraît pas très compliqué, mais c'est 50-60 km/h avec quasiment que de la départementale, des petites routes du fameux trou du cul du monde dont on parlait tout à l'heure, et des graviers, des usagers, des vaches, des cochons pour la Corse.
Donc de multiples.
Ah oui, la Corse, alors ça, faudrait que tu me parles de la Corse un peu. Vous avez eu le temps d'aller vous baigner, non?
Non, pas encore. Non. Pas encore. On n'était pas loin de la mer, mais on avait le temps
de multiples dangers quand même. Alors qu'est-ce qui... Du coup, on a vu qu'il y avait quand même une bonne quinzaine d'abandons, là. Il y a eu des accidents,
il y a forcément quelques chutes. Alors bon, c'est sûr que très clairement pour maintenir cette moyenne, ça veut dire que bah, quand c'est 90 km/h, faut pas tarder à y être, que les virages, bah, on essaye de les prendre les plus proches possible de ces fameux 90 km/h, histoire de compenser les quelques feux rouges qu'on va avoir, les quelques chemins de gravier et chemins de terre. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment être optimum partout, et il faut pas perdre de temps et en respectant les gens qui peuvent arriver en face. Et c'est un peu toutes les difficultés. Donc pas de gros clash, mais aujourd'hui c'est vrai que bah, le tracteur qui arrive, la roue qui s'en va un peu trop près du fossé, et puis eh ben, on est vite par terre quoi.
Ce qu'il faut, faut pas casser de chaîne, il faut pas crever, il faut pas, ouais, ça... faut pas avoir de problème pour pouvoir respecter cette moyenne.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est clair.
Sinon,
c'est vite la spirale infernale, ouais.
C'est cool. Voilà. Du coup, c'est presque une course de régularité.
Ah oui, non, de toute façon, de toutes
les. Si on grille un feu rouge, qu'est-ce qui se passe alors concrètement?
Eh ben, t'as un PV.
C'est tout le truc rigolo, ouais. C'est qu'aujourd'hui, donc on était escorté par la garde républicaine.
Oui, hein, c'est encadré, hein, par,
voilà, tout à fait.
Par la police.
Garde républicaine qui ouvrait avec les doubles zéros le matin les routes pour justement jauger du niveau de difficulté du parcours et qui orientait cette fameuse moyenne entre 50 et 60 km/h. Eux, un peloton de surveillance routière qui lui, enfin les deux, donc la garde républicaine et le peloton de surveillance routière, relevaient des infractions qui transmettaient à l'organisation, ce qui se traduisait par des pénalités dans le classement. Par contre, aujourd'hui, on était, enfin il y avait la police qui était sur le parcours, connue, déposée en préfecture de partout, avec des vrais radars, avec des vrais points et avec des vrais 90 euros. Donc voilà. Quoi.
Donc il faut avoir son permis pour faire le mototour, en fait, faut le dire.
Il faut l'avoir au début, ouais.
Hein, pour avoir son permis moto. Non mais c'est pas ouvert par exemple à ceux qui ont le CSM par exemple.
Ah non, tout à fait, ouais, non, ce sont des machines immatriculées sur route, voilà. Sur route ouverte, donc réglementation de la circulation classique, quoi.
Et combien à la fin ont encore leur permis?
Bah visiblement 124 je crois.
Mais alors, mais une fois que tu es en spécial, alors là c'est à donf.
Ouais, là c'est route ouverte.
Hein, là c'est les routes fermées, donc
route fermée, et
là
c'est gaz en grand.
C'est gaz, voilà.
Donc après, bah, la difficulté, c'est en effet de se mettre dedans, parce que bah, quand on a, enfin, ça a un coût quand même. Je pense qu'on va en parler après. Le tout, c'est de se dire quand on est dans les premières spéciales qu'on a, on n'est pas venu que pour faire celle-là et qu'il y a la Corse au bout, et donc de s'économiser un tout petit peu. Et puis, enfin, faut débrancher raisonnable, quoi. C'est un peu toute la difficulté de l'histoire.
Oui, parce qu'en fait, c'est une semaine. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Je crois qu'il y a 7 étapes, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et donc c'est pas vraiment un tour, c'est un tour en France mais pas un tour de France.
C'est pas un tour de France, non. Ça fait quand même 3000 km mais c'est pas un tour de France, donc on revient pas au point de départ.
Et comment ça marche pour les ravitaillements, par exemple? Vous allez aux pompes à essence?
Ouais, bah enfin là-dessus il y a deux écoles, et ça fait partie de l'expérience de ce genre d'épreuve aussi. C'est qu'aujourd'hui on ravitaille en moyenne tous les 180-200 km en fonction des parcours. Donc ou sur le roadbook on avait clairement des stations identifiées où on savait que pas de souci à 180 km ou peu avant, peu après, on avait une pompe à essence. Dans ce cas-là, on s'embêtait pas. Si c'était pas le cas aujourd'hui, on pouvait demander à l'assistance de venir se mettre sur le parcours. Nous, on était un peu trop gentil avec eux, on l'a pas fait souvent, on a pris quelques pions à cause de ça. Ou après, bah, c'est méthode des merdes, où aujourd'hui, quand on arrive proche de ce truc-là, on sort du parcours routier qui est imposé par le roadbook pour aller chercher de l'essence, et on revient sur le parcours routier à ce moment-là.
Et là, c'est un problème, parce que là, tu perds du temps.
Ouais.
No one's fooling me. for an easy mark. But heed this advice: be careful what you wish for. Don't put it on your wrist. It might not be too nice. You gotta be fooled if you think you're fooled. Oh, you're not fooled. Fooled.
Ne zappez pas, c'est toujours l'émission des motards qui a écouté tout pâle avec Thierry Houzé ce matin qui nous parle de son moto tour. Alors, explique-nous un peu comment ça se passe, une journée type. C'est des journées assez longues en général, les journées de rallye.
Oui, en fait, les premiers départs sont vers 7h le matin, donc en fonction du classement. En général, une spéciale de 250 km le matin. Un petit arrêt mécanique et restauration, on va dire ça comme ça, bien que ça se résume en général à une petite barre de céréales et un petit coup de flotte, d'une heure le midi, et puis rebelote pour l'après-midi avec, entre selon les journées, entre 150-250 km.
Ouais. Et puis il y a eu une journée particulièrement longue, une journée marathon. Alors comment ça se passe en fait?
Bah là, c'était la journée un peu redoutée par tout le monde et qui a fait du Chambard dans les classements. C'était départ, enfin, contrairement au jour précédent où on avait dans le tripi le parcours bien à l'avance, la journée marathon, c'était remise du roadbook une heure avant le départ. Donc en ce qui me concerne, c'était récupérer les feuilles A4 à 3h30 le matin, les couper, les enrouler, les mettre dans le bon vieux roadbook manuel à l'ancienne. Départ 4h30 du matin, donc dans le brouillard, le froid, dans la forêt, avec le qui glisse.
Caca dans les yeux.
Aussi, ouais, non, c'était un peu chaud. Donc on est parti ce matin-là très très tôt pour arriver vers 11h sur le circuit d'Albi. Là, on déshabille un peu la moto, toutes les accessoires qui ont servi à la partie routière. Donc on part en général avec un peu de bombe anti-crevaison, de mèches, de trois bricoles pour une assistance minimale au cas où. Donc là, on déshabille tout, on dégonfle un peu les pneus et on est parti pour 8 tours du circuit d'Albi. Au terme des 8 tours du circuit d'Albi, on rhabille la moto version route et on était reparti pour 250 km, toujours au roadbook manuel, avec tournée à droite, tournée à gauche, et pour finir au circuit d'Alès à la fin avec le circuit WRC du pôle mécanique d'Alès, où là c'était montée, descente, cailloux, comme en WRC, quoi. Donc une bien belle journée. Au terme de tout ça, entre 1h30 et 2h de mécanique le soir pour remettre les motos en état si besoin. Et un gros dodo derrière. Ouais.
Et puis tout ça t'a emmené jusqu'en Corse. Alors il y a eu un transfert par bateau. Comment ça s'est passé?
Ouais, bah donc on était regroupés à l'issue de l'étape à l'Est-Toulon sur un parc fermé. Donc après mécanique, etc. On a embarqué. Donc on a fait le choix de partir sans l'assistance parce que en termes de coûts, c'était remettre un camion dans le bateau, etc. Donc on est parti sac à dos configuration minimale et pour prendre le bateau et être regroupé le lendemain. Avant l'étape Corse.
Est-ce que c'est vous qui payez en fait les déplacements aussi de l'assistance, c'est-à-dire?
Ouais, c'est ça. Donc dans l'inscription qui a un coût qui est ce qui est, hein, c'est à peu près 1 500 euros.
Donc 1 500 euros d'inscription.
Ouais, par pilote.
D'accord.
Donc à ça rajouter le carburant, l'usure mécanique, les pneus, etc. Et selon le choix de la formule, puisque c'est quand même super bien fait au niveau de l'organisation, qui permet de le faire ce qu'ils appellent en formule solo, c'est-à-dire que les gens qui partent sur le solo sont hébergés dans des tentes climatisées, etc. Ils ont l'assistance qui est mise à disposition par un lycée technique qui suit tout le mototour. Enfin, je trouvais ça génial, quoi. C'est vraiment un truc qui permet de rendre l'épreuve accessible. Donc vraiment très très bien fait de ce côté-là. Et, et donc bah, le choix il est là quoi, c'est ou de partir avec sa propre assistance, son camion qui suit, avec un coût certes supplémentaire mais aussi plus de confort, puisque on, dans ce cas là nous ne sommes que les pilotes de notre assistance qui est content de nous voir arriver le soir, qui nous bichonne, ou de partir sur cette formule solo. Mais je trouve que la proposition de la formule solo c'est quand même très très bien pour rendre l'épreuve accessible.
Ouais, puis toi t'as pas fait les fameuses reconnaissances qui d'ailleurs ont fait des fois parfois débat.
C'est-à-dire
qu'il y a des équipes qui font des reconnaissances.
En fait, il y a vraiment deux niveaux je crois dans cette épreuve aujourd'hui, avec les 10-20 premiers qui sont vraiment là pour la gagne et qui aujourd'hui reconnaissent au minimum les spéciales, hormis celle de la journée marathon qui est dévoilée donc une heure avant. Mais autrement, donc les spéciales ont été dévoilées pour la Corse, je crois 15 jours avant. Donc les tout bons, ben ils mettent la moto dans le camion, ils vont reconnaître les spéciales 4, 5, 6 fois avant. Denis Bouan qui a gagné, a priori, je pense que d'après les échos que j'en ai eu, ça vaut ce que ça vaut, mais lui, il s'est quasiment fait tout le parcours.
Parcours par cœur, ça c'est. Alors, 9 éditions et 9 victoires.
Ah oui, non, mais c'est une machine de guerre. Hein,
quand on voit, par exemple, qu'il y a un engagé qui s'appelle Olivier Four qui a gagné 2 fois de suite les 24 heures du Mans Moto. Qui est quand même pas un manche, hein, qui a été vice-champion de France, mais même champion de France Superbike, et qui est que 12e, on s'interroge.
Ah oui, non, c'est vraiment une épreuve particulière, c'est une conjonction de tout, et puis il y a tellement d'événements qui peuvent se passer sur 3000 km qu'à un moment, genre hormis en effet, comme on disait, les 20 premiers qui sont vraiment des gens qui sont venus pour faire ça et qui l'ont vraiment bossé avant, qui ont même des équipements de moto particuliers. Aujourd'hui qu'un tripi, il faut pas grand chose pour faire ce genre d'épreuve. Les gens qui font ça depuis des années ne roulent qu'au roadboot manuel, ils veulent pas de tripi. Ils ont des machines avec des tripmaster pour savoir que 200 mètres c'est 200 mètres et pas 300. Ils ont des compteurs de vélo pour respecter les épreuves de basse chrono. Ça, faudra qu'on en parle un peu.
Alors, tu expliques un petit peu aux auditeurs ce que c'est que le roadmaster, hein,
le roadbook.
Le roadbook, c'est des trucs que tu déclenches soit au guidon ou alors avant, c'était des molettes que tu tournais et t'avais donc le parcours qui se déroulait, qui était inscrit sur du papier.
Voilà, parce qu'en fait, ce qui peut paraître bizarre aujourd'hui quand on parlait tout à l'heure de la régularité, etc., c'est qu'on ne sait absolument pas, enfin, on sait où on va puisqu'on connaît l'arrivée, on ne sait absolument pas par où on y va. Et aujourd'hui, pour nous indiquer, comment on doit y aller, on a en fait une bande de papier de la moitié d'une page A4 qu'on enroule sur ou sous forme informatique, ou qu'on enroule sur ces fameux roadbooks qui permettent en fait, en roulant, de dérouler ce papier, et le papier il donne comme indication, tourner à droite dans 200 mètres, faire 6 km, vous tombez sur un rond-point, tombez à gauche, etc. etc. Donc aujourd'hui, la difficulté c'est que ce roadbook donne absolument pas de vision de ce que sera la route, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir des routes très roulantes pendant 30 km et se retrouver dans un chemin de cailloux où on a mangé du gravier, hein. En France il n'y a pas de pétrole mais il y a du gravier, donc on avait plein de petites routes départementales que la DDE avait eu la gentillesse de nous refaire, mais oublié d'enlever le gravier. Donc quand c'est comme ça, c'est 30 km/h les pieds par terre pour pas se mettre par terre.
Et je confirme que pour la sécurité des motards, c'est pas bien ça.
Bah, ça fait partie, ouais,
c'est dangereux.
Ça fait partie des trucs où quand on en revient, on se dit là il y a un peu de boulot.
Il y a un problème là.
Hein. Ouais, c'est clair.
Et donc t'as eu la chance de terminer ce rallye à la 104e position.
Ouais,
ce qui est pas si mal pour une première participation, quand même, chapeau, coup de chapeau, quand même.
Déjà de l'avoir terminé.
Ouais, c'est surtout ça.
On m'a dit hier, justement, j'ai parlé de toi, on m'a dit 104e sur 106.
Ah, non, je sais pas. C'est possible, mais sincèrement.
Sur 124 qui ont terminé l'épreuve.
Il y a eu
quand même une quinzaine d'abandons.
Non, mais de toute façon, après le classement, on lui fera dire.
Déjà, on va dire que terminer, c'est déjà pas mal.
Ah ouais, bah, c'était l'objectif, quoi. Aujourd'hui, enfin, le Mont Faron, d'être là-haut et de voir la baie de Toulon, c'est vraiment une consécration, quoi, dans l'histoire. Après le classement, on lui fera dire ce qu'on voulait, quoi. Comme je disais tout à l'heure, à un moment, les gens très organisés se mettaient de l'assistance essence à la moitié des spéciales. La moitié des parcours, etc. Ce qu'on n'a pas fait. Alors aujourd'hui, c'est pareil, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui tombe et que vous vous arrêtez pour le ramasser, ce qui paraît quand même le minimum, que vous passez un peu de temps, etc., pour appeler l'assistance, l'organisation, etc. Certes, on vous compense votre temps, mais il faut savoir que sur les grosses liaisons, on roule quand même en paquet, quoi. Ça finit par se regrouper. Ça permet aujourd'hui au premier qui doit vraiment maintenir son attention très très fort de se reposer un peu et de se mettre derrière, etc. Alors aujourd'hui, quand vous avez ramassé quelqu'un à 4h du matin, matin en forêt et que tout le monde est parti et que vous repartez tout seul, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc aller prendre des pions dans le classement, c'est pas très compliqué non plus.
Est-ce que Denis Bouan s'arrête lui justement quand il y a un concurrent qui tombe devant lui?
Il n'y en a pas.
Bah, il est devant.
Le problème, c'est qu'il ne voit pas les concurrents du temps.
Ah non, mais après je sais non, pas.
S'arrêterait-il alors?
J'en sais rien. Hein, j'ai pas vu comment ça se passe.
Ouais, je connais un petit peu Denis et c'est un mec vraiment cool et je pense qu'il s'arrêterait.
Mais il s'arrêterait. Bon. Ouais,
bon. Bah, ce qui après, il faut voir les enjeux. Quoi.
Ce qui est clair, c'est que lui, par contre, on a pris une petite et je crois que le deuxième ou le troisième s'est arrêté pour l'aider. Donc, quand même, bel état d'esprit.
Il faut conserver cet état d'esprit qui est quand même dans la moto assez privilégié.
Alors, tu retournes l'année prochaine
Mais je sais pas l'année prochaine. Enfin, nous, le but était d'aller découvrir ça et puis de voir si on est capable aujourd'hui de proposer ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je travaille dans la moto. Le but était de savoir si aujourd'hui on peut emmener plus de monde sur ce genre d'épreuve, donc de mesurer la faisabilité et le niveau qu'il faut avoir pour le faire dans de bonnes conditions. Donc bon, tous les ans c'est peut-être un peu lourd, mais bon, c'est clair que tous les deux ans je pense que je remettrai le couvert, ouais, c'est clair.
Donc on a pas dit qu'il était lillois en fait,
peut-être, forcément,
qui travaille dans une grande concession pour un
genre
grand
magie,
accessoire.
Voilà. Thierry, écoute, tu penses qu'un livre, le manuel du motard, ça pourrait servir pour faire le mototour?
Je pense qu'il y a quelques bonnes recettes de base à respecter.
Eh bien, écoute, c'est tout simple, on va avoir son auteur juste après le morceau de musique. Voilà, au téléphone, nous avons l'auteur du livre Le Manuel du Motard, c'est Cédric Montéard.
Allô Cédric, oui, tu es bien avec nous ?
Eh bien, je suis avec vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Fred et salut toute l'équipe.
Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de t'avoir au téléphone aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ton livre, là, le manuel du motard. Avant, je voudrais rapidement revenir sur ton parcours quand même. Tu es un professionnel, un passionné de la moto. Tu as été magasinier, vendeur, coursier. Fauconnier dans un parc de rapaces. Bon,
ah, j'ai failli, ça, j'ai failli.
T'as failli. Ça aurait été aussi intéressant d'en parler.
Plongeur sous-marin.
Journaliste essayeur à Moto Revue.
Exact.
Et reporter indépendant aussi, je crois.
Ouais, pas très longtemps parce que c'était pas rentable du tout, mais j'ai essayé et ça m'a bien plu. Mais voilà, comme pendant 2 ans seulement.
C'est une belle. C'est déjà un beau parcours, moi je trouve.
Disons que pour la ouais dans la motocyclette ça commence à être pas mal. Moi c'est là que j'aime tellement ça que j'espère continuer à travailler dans le milieu encore longtemps.
Ça sent, hein, t'es un passionné de moto, ça transpire dans ton bouquin. Alors tu as écrit le manuel du motard. Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Eh ben tout d'abord, je me suis aperçu que ce genre de bouquin n'existait pas à l'attention des motards. Et que et voilà, je pensais rendre service, voilà, faire partager un petit peu mon expérience, et puis voilà, je me disais que si le bouquin pouvait éviter peut-être quelques accidents, etc., parce que sur la route c'est vrai que c'est souvent un petit peu critique, ça n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir évidemment. J'avais envie de synthétiser tout ce que j'avais appris voilà depuis que je travaille dans le milieu de la moto, et puis pour finir, c'est vrai que j'avais envie de rendre hommage à un ami qui s'est tué à moto. Renversé par une automobiliste qui grille des feux rouges. Donc voilà, c'était aussi le déclic qui m'a fait me lancer dans l'aventure de ce bouquin.
Voilà, donc vraiment tout, c'est vraiment un manuel, hein, tout est abordé, la sécurité, le pilotage, l'équipement, enfin vraiment
et
tout.
Et même le remisage.
Et même le remisage, tout à fait, oui.
Ouais, il y a plein de trucs, je le voulais vraiment ultra complet, c'est le plus complet du marché actuellement. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a pris du temps, ça m'a pris presque 2 ans pour le sortir, quoi.
Et donc tu vas dire qu'il s'adresse plutôt à des novices, à de jeunes motards ?
Il s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas énormément de kilomètres au compteur, mais c'est vrai qu'après, il y a pas mal de motards déjà confirmés qui l'ont lu, qui l'ont acheté et qui m'ont dit que c'était toujours sympa de pouvoir réviser un petit peu ce qu'on avait appris au départ et puis comprendre des phénomènes qu'on ressentait sur la route au quotidien, mais qu'on s'expliquait pas forcément, des phénomènes physiques, etc., liés aux deux roues. Donc, a priori, ça s'adresse un peu à tout le monde, cyclo, 125, et puis motard, bien sûr.
Voilà, et j'ai vu aussi que tu avais des personnalités qui ont collaboré à ton livre.
Ouais, j'ai la chance d'avoir pu être un petit peu aidé pour les parties plus pointues, comme le réglage des suspensions. Voilà, c'est Denis Bouan et Serge Nu qui m'ont aidé, ils m'ont fait... profiter de leur grosse expérience en la matière. C'est deux grands pilotes de rallye routier, pour ceux qui connaissent. Et puis Cyril Després aussi pour la partie off-road, pour les utilisateurs de trail en tout terrain.
Mmh. Il y a Jean-Michel Bell aussi qui a écrit une préface.
Il m'a fait l'honneur d'un petit mot, ouais, en préface. Tout à fait, ouais. C'est un gars très sympathique. Et puis c'est vraiment une telle figure du milieu moto français que ça me faisait plaisir d'avoir un petit mot de lui au début du livre.
De belles références quand même. J'ai vu aussi que c'était un livre auto-édité.
Ouais. Bah ouais, encore une particularité. C'est ce qui fait aussi que ce livre se démarque un peu des autres. Je l'ai auto-édité parce que ce que me proposaient les quelques éditeurs qui m'avaient dit oui, qui m'avaient dit ok, me convenait pas forcément. C'est-à-dire, ils voulaient moins de texte, plus de dessins, faire un truc un peu rigolo. Et puis, le papier recyclé les intéressait pas forcément, imprimé en France non plus, etc., etc. Donc moi, je voulais vraiment sortir le bouquin dont je rêvais. Seule l'auto-édition le permettait.
Ça, c'est moi, je trouve, c'est une très belle aventure. Donc, tu termines par les véhicules écologiques. Ça, j'ai appris pas mal de choses parce que je t'avouerai que je ne connaissais pas bien. Et tu veux aussi en faire plus ou moins ton métier en ce moment. Je crois que tu es en train de travailler sur un projet et je crois que tu cherches un sponsor, voire un mécène.
Ah, c'est sûr, c'est sympathique à toi d'en parler. C'est vrai que c'est des projets qui coûtent un peu d'argent. La motivation est liée, la passion, tout ça, les connaissances un petit peu. Je travaille avec mon frère qui est ingénieur spécialisé dans le domaine. Donc on a déjà plein de trucs dans les cartons, mais maintenant il va falloir quelques deniers pour faire naître tout ça, quoi.
D'accord, donc on s'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez investir dans la moto propre, n'hésitez pas à contacter Cédric Montéard et notamment à consulter son livre sur lemanueldumotard.fr. Vous pourrez le retrouver sans difficulté. Merci. Merci Cédric, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Toujours dans l'émission Kika Écoute et tout pâle, l'émission des motards le dimanche matin, avec peut-être un petit clin d'œil sur le Superbike. La dernière aujourd'hui, c'est à Portimao, avec notre ami Carl Scheka qui a fait une première pole et Jonathan Rhee qui a fait la seconde sur Honda. Alors, en Superbike, évidemment, le titre est joué, hein, puisqu'on était en direct de France, et ça s'est joué en France. Carlos a remporté le titre avec 467 points. Alors, à noter quand même la petite perf de Sylvain Guintoli, qui est pas sur une machine Ducati officielle, mais qui fait quand même 7e au classement. Et puis, en super sport, il y a eu un doublé ce matin, enfin, aux essais de deux Kawasaki, du team Pedrecini. Et puis à noter que Fabien Forêt est quand même second en général, donc on va voir un peu les courses, la course, comment ça va se dérouler à Portimao, c'est à partir de midi, donc à suivre. Et puis en endurance, le titre par contre lui n'est pas joué, donc ça va se jouer le 12 novembre prochain au Qatar. Et pour l'instant c'est le CERT qui a repris l'avantage suite à une difficulté du team BM, puisqu'on attendait une victoire BM qui semblait inéluctable, et finalement il y a eu un petit souci de boîtier électronique. On a dû changer aussi la rampe d'injection pendant la nuit, et puis on a perdu la course sur un problème technique, hein. Après tout, l'endurance c'est bien pour démontrer la fiabilité, n'est-ce pas Thierry?
Ah oui, non, c'est clair.
Et donc en fait cette situation a profité au team de Dominique Mélian, hein, le plus titré de la catégorie, qui avec 90 points tient le haut du pavé. Bon, il y a que 9 points qui séparent les deux équipes, mais derrière on a aussi la Yamaha de Christophe Guyot, Yamaha France, hein, qui est en 3e position du classement et qui va devoir faire une belle course au Qatar pour maintenir cette 3e place sur le podium. J'espère qu'on arrivera à le joindre au téléphone juste après ce morceau de musique proposé par Laurent.
Thierry, il nous reste les 10 minutes, même pas, pour terminer cette émission. Donc le mototour, ça se termine toujours en haut du Mont Faron à Toulon, hein, le samedi. C'est une spéciale, hein.
On a ouais la spéciale du Montfaron qui est assez assez jolie à voir parce qu'en fait c'est vraiment ce sont des virages très très serrés et l'ascension
c'est très,
d'un
très
mont,
étroit en plus.
Ouais,
hein.
Tout ouais, ça fait
c'est un sens unique d'ailleurs, je pense, hein.
Ouais, je
tu
pense
montes d'un côté et tu descends de l'autre.
Tout, hein. Ouais, tout en temps normal, je pense que ça se passe comme ça. Moi, je le connaissais pas hormis cette
épreuve. C'est la première
fois. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, c'est impressionnant, je pense que c'est assez joli à voir et c'est un très très bel endroit parce que c'est vrai quand on est là-haut, c'est un double soulagement, celui d'avoir fini et celui d'avoir une superbe vue sur
Et quand t'es en haut, t'as la rade de Toulon, effectivement. Donc ouais. Si t'as du soleil en plus, alors ça se termine comment dans la joie, la bonne humeur.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, tout le monde se raconte ses histoires la semaine.
Ouais, les petits
trucs.
Ce qui s'est passé.
On se donne rendez-vous pour l'année prochaine.
En général, ouais. Et pour limiter les ardeurs, on est quand même accompagné par la garde républicaine pour faire le Montfaron jusqu'au retour au parc fermé parce qu'il y a eu quelques débordements de motards très heureux.
Oui, tu redescends parce que effectivement le parc il est au pied du Montfaron.
Ouais,
tu redescends de l'autre côté et là il faut éviter que les concurrents tout joyeux, on peut les comprendre. Hein.
Ouais, c'est
mais bon. Fassent des bêtises.
Il faut préserver l'image du motard et c'est sûr qu'il y a eu quelques débordements les années précédentes, donc là maintenant c'est bien encadré. Ouais.
On peut-être parle deux mots de ton coéquipier. Hein. Vous étiez deux à faire
de
la région ici de Lille.
Ouais, absolument. Ouais. Je suis parti avec Jean-Yves Pégard qui est un client
qui a terminé 76.
Et qui a terminé 76.
C'est pas mal. Ouais. C'est une belle performance.
Ouais. Bon, il faut dire qu'il a une formation de base qui est pas trop trop mauvaise. Il est motard dans la police. Donc
est-ce que tu penses que c'est ça qui fait ou voilà il s'est repéré un peu plus avec les systèmes de les tripis tout ça
non je pense qu'en termes de navigation à la limite je lui ai peut-être appris quelques trucs, je lui ai réglé
son tripis, donc c'est vraiment c'est le pilotage
c'est le pilotage et je pense que c'est l'endurance quoi. Il est 8 heures par jour sur une moto, à un moment ça cogne forcément et aujourd'hui il y a vraiment des jours où il m'a tracté sur l'épreuve à l'Est Toulon, je le remercie encore parce que il m'a appris beaucoup de choses en termes de pilotage route, rien qu'à le regarder faire.
Vous partiez ensemble
on a réussi une journée à rouler ensemble.
À rouler ensemble.
Donc tu
pouvais le suivre et il t'ouvrait là un peu là-haut. Remarque, s'il est pas motard CRS.
C'est son métier. Il m'a demandé d'accrocher la route que j'ai fait.
D'accrocher, ouais.
Ouais, je vais vous interrompre deux minutes parce que là, on est avec Christophe Guyot au téléphone. Alors, Christophe, bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour à tous, bonjour Gilles.
Alors on voulait juste aussi te poser un peu quelques questions pour que tu expliques un peu aux éditeurs qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Mans très rapidement. Une épreuve à oublier pour vous?
Oh, à oublier non, on essaie toujours de retenir de toute façon de nos échecs. Là, celui-là a été cuisant, hein. C'était l'un de nos plus difficiles à digérer, oui. Bon, ça a commencé par une chute de David Checa à fond dans la coupe d'Alop sur une crevaison de l'avant. Donc c'est très rare, mais des motos avaient chuté précédemment. Et donc le jeudi, ça a commencé, et tout le grain de sable a commencé voilà, tout est venu de là.
Tout s'est enchaîné avec la destruction d'une partie de la machine, etc.
On voulait après, on a dû renvoyer une partie de l'équipe à l'atelier, refaire une moto parce qu'elle a été détruite. Mm-hmm. Ce qui, en 20 ans de course, ne m'était arrivé, j'ai compté 3 fois. Donc c'est pas difficile de compter. Mais détruite, hein, l'amortisseur arrière cassé, le cadre défoncé, les cartes moteurs arrachées, la culasse hein, a été abîmée par le choc. Donc il a fallu reconstruire une moto, et pendant ce temps-là, on a fait nos qualifs. Alors qu'on voulait viser la pole position, on se retrouve quatrième sur le grid de départ, à la moyenne des trois. On était un petit peu, tout ça met un peu de pression, on règle pas la moto comme on veut. David part en course, il pose le carter. Avec le plein d'essence, il pose le carter dans un virage, il tombe et après. Puis alors, le pompon, c'est Mathieu qui se retrouve à. Alors que là, on fait une belle course, on remonte.
Après, bon, voilà, il y avait une belle remontée, puis il y a eu des graviers, il me semble, sur la piste aussi.
Voilà, en fin de compte, c'est une drôle d'histoire. C'est que les. Bon, déjà, on remontait, on était contents, tout était oublié. C'était, on visait la cinquième place à la régulière. À ce moment-là, je crois qu'on était remonté 30e depuis la 50e place. Il était 10h30, on était rentré dans la nuit, il était 10h30 du soir. Et puis Mathieu Lagrive, en fait, est arrivé juste derrière la numéro 24, qui, en fait, a lâché de l'huile. Et alors, ils ont été 4 motos comme ça à recevoir cette huile. Il y a eu David, il y a eu la moto de Mako Racing, donc qui est rentrée complètement repeinte d'huile. Mais qui a réussi à ne pas tomber. La 65 qui est partie, et malheureusement le pilote s'est brisé la vertèbre. Et puis la moto vainqueur. Okay. Grégory Leblanc sur la moto était juste derrière Mathieu Lagrive et mais il a pris le vide aussi. Sa moto a ripé, elle a raccroché. Il a pu couper le bac à 250 km/h, le bac d'Alop, et il s'en est sorti pour gagner le lendemain.
Voilà. Bon, donc, il nous reste 5 minutes, très vite. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la course au Qatar très rapidement?
Bon, de toute façon, on part serein. On connaît les courses d'endurance, elles sont difficiles parce que le résultat n'est pas. On peut jamais garantir un résultat.
Quelles sont les difficultés qui vont se poser à vous au Qatar, en fait?
La première difficulté, c'est que quand on vient d'une course comme ça où ça a été un tel tel échec, une telle déception, forcément on ne peut pas partir en disant ça y est, on y va, on va gagner, etc. Bon, maintenant on est compétitif. Depuis l'Espagne, on termine deuxième en Espagne, au Japon on est septième, on est en super pôle. Bon, on sait une chose, ça c'est sûr, c'est que notre moto elle va hyper vite, on était bien, super bien, on était meilleur temps le mardi au Mans, on pouvait faire quelque chose de bien, ça c'est acquis. Par contre, le résultat,
Mais un petit pronostic peut-être, si tu peux te risquer un petit peu, prendre un petit risque, dernière question, BM ou Suzuki, tu vois l'arrivée de cette course au Qatar?
Bah, je nous vois nous.
Ouais, c'est gentil. Non mais vous, c'est certain, troisième marche du podium, sans doute.
Ah, tu veux dire pour...
Championnat du monde.
Pour le championnat du monde.
Voilà,
oui, bien sûr, pour le championnat du monde, non, on peut pas le savoir. Bah, aujourd'hui, Suzuki est favori, mais forcément, ils le sont parce qu'ils maîtrisent leur destin. C'est-à-dire que si eux sont devant, ils sont sûrs d'être champions.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe. On va devoir se quitter parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je suis désolé de t'avoir dérangé dimanche matin. Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir. Bah, bonjour à tous les gars du Nord.
La Miche, t'écoute.
Oui, bonjour, Christophe.
Bonjour, la Miche.
Vraiment déçu, hein, les 24 heures du Mans. Hein, j'ai regardé à la télé et vraiment.
Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Voilà, maintenant, c'est chose faite. Alors. Merci beaucoup et on se retrouve au Qatar puisque je serai à tes côtés, Christophe.
Ah bah c'est super. Ah.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Bon voilà, l'émission se termine. Allez, 3 minutes. Thierry, donc l'année prochaine, tu m'as dit, tu reprends pas de tous les deux ans, hein, c'est ça?
Bon, on va voir, là c'est encore un petit peu frais.
C'est chaud, hein, c'est une semaine pour rentrer.
Ouais, c'est clair, on verra après.
C'est un budget quand même, c'est une préparation physique.
Ouais, et puis aujourd'hui c'est clair que si on a quelques clients qui veulent qu'on les emmène sur l'affaire, ça sera avec plaisir et on remettra le couvert.
Peut-être deux mots pour terminer avec le Beach Cross de Berck. Parce qu'au Beach Cross de Berck, le pilote local Arnaud de Mester a fait la pole hier soir aux essais. Donc,
c'est aujourd'hui.
Course
c'est
à suivre aussi, course régionale. Mmh. C'est quand même d'ampleur. Trophée de France des Sables, ou Motoclub Bécancourt notamment, beaucoup de pilotes.
Voilà. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a aussi le salon du sidecar à tourner en Belgique sous chapiteau sur la place. Vous verrez, c'est très facile à trouver. C'est ouvert jusqu'à 18h et vous avez des machines formidables. Allez-y, je vous y invite.
Et moi, je peux vous donner le vainqueur du championnat du monde 2011 sur route. C'est, devinez, le résultat d'Australie. Moi, je me suis levé à 5h du matin pour regarder le Grand Prix. C'est Stoner.
Voilà, bien sûr.
Et voilà, c'est fait, c'est bon, c'est lui le champion du monde. Voilà, on va annoncer aussi une grande émission dimanche prochain parce que nous allons avoir le groupe Socrate et avec le chanteur
Matrache.
En direct.
Guitariste.
Et
il va nous interpréter un guitariste. En direct. Un grand moment,
on va faire.
Chaud.
Bah voilà. Jerry, merci d'être venu le matin comme ça, dimanche matin. On sait que les gens dorment le matin, sauf ceux qui viennent à l'émission.
Non, avec plaisir, et j'incite tous les gens qui aiment les petites routes à aujourd'hui d'aller rechercher éventuellement le roadbook sur le site internet du Dark Dog Moto Tour, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tranquillement dans d'autres conditions, et c'était vraiment de très 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 belles routes.
Merci beaucoup.
Merci.